Chapitre 22. Voici que les créatures au cœur noir qui tenaient la population d'Éphren en esclavage disparurent tout à coup. Nombreux furent ceux qui crurent à une intervention des antiques dieux des légendes planétaires, et ceux-là vouèrent des cultes laudateurs appelés Éphréniaques. Nombreux furent ceux qui pensèrent à une disparition naturelle, à une usure du temps, et ceux-là s'imaginèrent que la science suffisait à expliquer les mystères de la création. D'autres, enfin, virent dans ce phénomène un nouveau miracle de Taoufraïm, et ceux-là s'en allèrent par les rues de Corallion en chantant ces merveilles. Voici que Taoufraïm les entendit, traversa le monde des morts et leur apparut dans un tuyau majeur des grandes orgues. À cela, il dit que, s'il continuait à vivre selon ses préceptes, il le rejoindrait un jour dans le monde merveilleux du grand Inda. Les neuf évangiles d'Éphren. Faits et merveilles de Taoufraïm. Grok Oman, le secrétaire personnel du cardinal Desgouv, s'épongea nerveusement le front.
J'ai l'impression que les insurgés gagnent du terrain, dit-il d'une voix aigrelette plaintive.
Le vicaire, le cardinal et les cinq missionnaires permanents de Corallion s'étaient réfugiés dans la chambre d'Onitike, au dernier étage du temple creusien. Craignant probablement que la vue du corps dénudé de l'ancienne tutale ne trouble les missionnaires, le vicaire, lui, ne risquait pas d'être troublé, ou alors de manière purement platonique, avait recouvert la jeune femme d'un drap de soie qu'il avait déniché dans un placard. Elle n'avait pas protesté, car son épiderme pratiquement reconstitué acceptait à présent le contact avec les étoffes. Comme elle n'aimait pas être offerte sans défense au regard sournois des hommes d'église, elle avait été reconnaissante de son initiative au secrétaire personnel du cardinal-gouverneur.
« Nous aurions dû tenter de regagner le salon des déromates, » lança un missionnaire. « Nous sommes bloqués. Les combles ne disposent d'aucune issue de secours. »
« Libre à vous de vous aventurer dans les escaliers et les couloirs du temple, frère Antor, »
siffla le vicaire.
« Vous expliquerez à ces enragés que vous souhaitez gagner le sous-sol pour vous transférer sur Syracusa. »
« Calmez-vous, »
intervint le cardinal Desgouv, assis sur une chaise au pied du lit.
« Les mercenaires de Prithiv nous sont tout dévoués. Avec l'aide des interliciés, ils réussiront peut-être à redresser la situation. »
« À 500 contre plusieurs milliers, leur science du combat risque d'être notablement insuffisante, éminence. »
grinça Grok Oman.
« Eh bien, priez le Kreutz au lieu de gémir comme une vieille femme. »
Depuis l'inexplicable disparition des Skaïtes d'Hyponeros, dont on n'avait retrouvé que les acabats vides, le cardinal semblait avoir recouvré la plénitude de ses facultés mentales. Sa pugnacité également, au grand dam de son secrétaire qui était redevenu la cible favorite de ses flèches.
« Je crains fort que ma science de la prière ne soit également insuffisante, »
murmura le vicaire.
« J'ai l'impression que les insurgés savaient que les Skaïtes allaient nous abandonner. »«
Absurde !» s'exclama le cardinal. « Personne n'aurait pu le prévoir. Les Skaïtes ne sont pas humains. Ils ont peut-être tout simplement achevé leur cycle de vie. »
Toutefois, la coïncidence restait troublante. Les insurgés avaient lancé leur offensive au moment où les inquisiteurs, les effaceurs et les protecteurs s'étaient volatilisés. La lumière de Xatimou tombait en colonnes inégales et bleues des tuyaux des grandes orgues qui ne s'étaient pas encore engorgés. Et des milliers d'hommes et de femmes armés de fusils à harpons, de simples ustensiles de jardinage ou de cuisine, la fragilité du bouclier corallien protecteur avait depuis toujours proscrit l'usage des armes à haute densité. Avaient surgi des étroites ruelles de Corallion et avaient convergé vers le temple. Des sortes d'immenses conteneurs avaient été chargés sur des plateaux à roues et tirés par des dizaines d'hommes au pied de la colline de quartz noir. Grok Oman était accroupi au-dessus d'une fosse d'aisance lorsqu'il avait entendu les vociférations de la multitude. Comprenant immédiatement de quoi il retournait,
Il n'avait pas pris le temps de vider entièrement sa vessie. Il s'était rhabillé à la hâte, pestant contre la complexité du col en corps et l'obligation qui lui était faite d'uriner comme une femme. Quelques heures plus tôt, un vieux pulonnier du nom de Karl Pralet avait demandé une audience auprès de Xafox pour le prévenir que le capitaine de son moussier, un dénommé Saül Arnen, avait recueilli Taoufraïm, le fils de Nikike, au cours de sa mission de consolidation des pylônes. Le grand inquisiteur avait implanté un germe d'effacement dans l'esprit du vieux pulonnier. Il ne s'était souvenu de rien, même pas d'être venu au temple. Avait localisé le capitaine Saül Arnen, puisé quelques informations intéressantes dans son cerveau et envoyé une cohorte de mercenaires de Pritiv à son adresse. Puis il avait convoqué le secrétaire du cardinal Desgouve. Il savait mieux que personne que, pour avoir la caution de l'autorité suprême d'Efren, il valait mieux s'adresser au vicaire qu'au prélat, et l'avait informé de la situation. Ils avaient alors décidé d'expédier une deuxième cohorte de mercenaires à l'assaut du Tuta, accompagnée de deux Skaït effaceurs chargés d'obtenir la neutralisation du système de reconnaissance cellulaire en manipulant à distance l'esprit des permades de faction. Après avoir enfilé son col en corps et son surplis, Grog Harman avait couru au bureau de Xafox, mais il n'y avait trouvé que les mines atterrées des missionnaires permanents.
« Les Skaït ont disparu, » avait bredouillé l'un d'eux.
« Allez les chercher, »
avait glapi le vicaire.
« Les rebelles attaquent plus tôt que prévu. »
« Ils ont disparu, » avait répété le missionnaire.
Il avait alors montré les flaques rouges, blanches et noires figées sur le parquet. Incrédule, le vicaire avait ramassé une akaba et l'avait dépliée comme s'il pensait encore avoir une chance de trouver quelqu'un à l'intérieur de cette grossière étoffe vide.
« Disparu, »
avait-il annoncé. Les grandes orgues de corail venaient de lui tomber sur la tête. Les mercenaires et les interliciers, alertés, étaient sortis de leur quartier et s'étaient massés devant le temple pour en interdire l'accès aux insurgés. Les combats s'étaient engagés, violents, meurtriers. Les disques tueurs des mercenaires avaient opéré des ravages parmi les assaillants. Mais ces derniers avaient pointé les extrémités des lances sur les défenseurs et les avaient recouverts de tonnes de mousse liquide. Les mercenaires et les interliciers qui avaient échappé à l'ensevelissement s'étaient repliés à l'intérieur du temple, déployés dans les différentes pièces, sur les escaliers, sur les balcons, et forts de l'avantage que leur conférait l'exiguïté des locaux, avaient enrayé la progression de leurs adversaires, pourtant 10 fois plus nombreux. Grog Harman, les missionnaires et le cardinal n'avaient pas eu d'autre choix que de se réfugier dans les combles. Ils avaient jeté leur dévolu sur la chambre d'Oniki car, au cas où les choses tourneraient mal, il n'y avait aucune raison objective qu'elle s'améliore, ils pourraient toujours se servir de la tutale comme d'une monnaie d'échange. Le vicaire avait pris le temps d'aller récupérer dans ses appartements le petit onde mort qui le suivait partout. Pour évaluer la progression des insurgés, il ne pouvait se fier qu'au bruit, aux coups sourds des corps qui s'effondraient, aux hurlements des blessés, aux crissements des disques métalliques, aux vibrations des pas sur les marches des escaliers.
« Je me demande si les Skaït ont réussi à neutraliser le système de reconnaissance cellulaire du Tuta avant de... d'achever leur cycle de vie, »
dit Grog Harman.
« Pourquoi l'aurait-il fait ?» demanda le cardinal.
« Pour que les mercenaires puissent récupérer le fils de cette femme. »
Oniki redressa le buste et, tout en maintenant d'une main le drap sur sa poitrine, fixa le vicaire d'un air inquiet.
« Son fils se trouve donc dans l'enceinte du Tuta ?» insista le cardinal.
« Il a été recueilli par un moussier du Pulon. Un des membres de l'équipage est venu nous en informer. »«
Vous en informez, monsieur le secrétaire !»
s'emporta soudain le cardinal, oubliant toute notion de contrôle APD.
« Et pourquoi n'en ai-je pas été informé, moi ? Ne suis-je pas le cardinal gouverneur de cette planète ?»«
Ces maudits rebelles ne m'en ont pas laissé le temps. » mentit Grog Harman.
Une voix douce s'insinua dans le silence tendu qui ponctua l'éclat du cardinal.
« Est-il en bonne santé ?»
Le vicaire lança un regard vipérin à la jeune femme.
Je n'en sais rien et je m'en moque, siffla-t-il. Priez vos dieux si vous en avez que les mercenaires ne lui aient pas mis le grappin dessus.
Modérez vos propos, monsieur le Nuque, intervint le cardinal. Vous parlez à une mère.
Grockhoumann plongea la main dans la poche de son surplis, sortit son nom de mort et le braqua sur la tête du prélat.
Traitez-moi encore une fois de Nuque, éminence, et vous n'aurez plus de tête.
Vous perdez la raison, Grockhoumann, riposta le cardinal. Vous proférez des menaces contre votre supérieur hiérarchique, contre un cardinal de l'Église? Vous savez ce que vous risquez.
Les Scaïtes ne sont plus là pour témoigner.
D'un ample geste du bras, le cardinal désigna les ombres jaunes et figées des missionnaires.
Eux témoigneront.
Il se rendit compte aux mines atterrées des missionnaires que l'appel à la délation ne rencontrait chez eux qu'un écho très assourdi. Il ne voyait sans doute pas la nécessité d'ajouter des soucis supplémentaires aux cascades d'ennuis qui leur tombaient dessus.
Rien ne prouve que les Scaïtes des autres planètes aient suivi l'exemple des nôtres, ajouta rapidement le prélat.
Après la colère, l'œil noir du canon de Londemort éveillait en lui une grande inquiétude.
Mais ils ont peut-être été victimes d'un virus spécifique à Ephren. Je vous ferai traduire devant un tribunal d'exception, et la vérité de votre comportement n'échappera pas à la perspicacité des inquisiteurs du palais épiscopal.
Un rictus déforma les lèvres minces de Grockhoumann.
À votre place, éminence, j'éviterai de me bercer d'illusions. L'hypothèse d'un virus n'est pas seulement chimérique, elle est totalement stupide. A-t-on jamais vu un Scaïte malade? Mon sentiment, c'est que tous les Scaïtes ont été rappelés par leurs instances supérieures dans un dessein bien précis. Cette manœuvre ressemble étrangement à la retraite massive d'une armée.
Vous changez d'avis comme deux chasubles. Tout à l'heure, vous prétendiez qu'ils avaient été anéantis par les Éphréniens.
Une chose est sûre en tout cas. En cessant de servir l'église du Kreutz, ils nous ont foutus dans un sacré merdier. Un merdier sacré, devrais-je dire. Nous n'avons même pas la possibilité de demander des renforts.
Même si nous pouvions accéder aux liaisons holo, cela ne servirait à rien. Le palais épiscopal de Vénitia ne répond plus depuis plusieurs heures.
En un réflexe machinal, Grockhoumann se gratta la joue avec l'extrémité du canon de son nom de mort, soulageant ainsi le cardinal qui mit instantanément ce relâchement à profit pour se lever, contourner le lit et se placer entre les deux missionnaires qui lui lancèrent des regards courroucés.
« Je préfère ne pas imaginer le sort que les rebelles nous réserveront si nous tombons entre leurs mains, »
murmura le vicaire d'un air sombre. Il se dirigea vers le lit et pointa son arme sur Onyki.
« S'ils franchissent cette porte, je te tuerai avant de me donner la mort. »
Elle soutint son regard sans faiblir. Elle avait la certitude que son prince viendrait bientôt la délivrer. Les imprécations de cet homme vêtu de noir la laissaient totalement de marbre. Il faisait partie de ceux qui avaient expédié les monstres ailés dans les grandes orgues, qui avaient exterminé les serpents de corail. Il tremblait maintenant de peur devant la juste colère des Éphréniens, révoltés par ce crime odieux perpétré contre leur planète. Les vociférations traversaient les murs de la chambre.
« S'ils franchissent cette porte, je te tue !» répéta le vicaire.
Une grande confusion régnait dans le bâtiment des Toutas. Les mercenaires de Prithiv n'avaient rencontré aucune difficulté à pénétrer dans l'enceinte du cloître, car les deux permades de faction, effacés, avaient neutralisé le système de reconnaissance cellulaire et ouvert la porte dérobée. Les mercenaires s'étaient glissés silencieusement dans le jardin intérieur, teinté de bleu par les rayons obliques de Xatimou. Ils ne s'étaient pas rendu compte que les deux Scaïdes s'étaient volatilisés après avoir manipulé l'esprit des permades. Au moment où ils se déployaient entre les arcades du jardin, les tutales de retour du deuxième quart étaient entrés par la porte dérobée restée entrouvertée, découvrant leurs deux sœurs égorgées, avaient poussé des hurlements d'effroi. Les mercenaires de Prithiv avaient fondu sur elles pour les empêcher d'alarmer l'ensemble du cloître, les avaient décapités de leurs disques métalliques, mais leurs cris perçants avaient alerté les matrions qui, saisissant instantanément la gravité de la situation, s'était enfermé avec l'enfant d'Oniki dans le cénacle et avait commandé la fermeture automatique des grandes portes d'Optalumal, en principe imperméables aux rayons désintégrants. Les mercenaires avaient opéré une véritable tuerie parmi les sœurs de Touta. Les cadavres ensanglantés jonchaient par dizaines les allées, les massifs de rosaliers, les pelouses du jardin intérieur, les galeries des arcades, les couloirs des cellules et des salles communes. Les nettoyeuses du ciel et les permades n'avaient pas eu les réflexes salvateurs des matrions. Attirées par le tumulte, elles étaient sorties de leurs cellules au lieu de s'y confiner et avaient été cueillies par une pluie assassine de disques métalliques. Seules celles d'entre elles qui occupaient les cellules les plus éloignées et qui avaient vu leurs consœurs s'effondrer devant elles avaient eu le temps de battre en retraite et de se réfugier dans les cuisines, les entrepôts ou les buanderies. Fous de rage, ivres de carnage, les mercenaires avaient fouillé le cloître à la recherche des survivantes. Ils en avaient débusqué quelques-unes qu'ils avaient froidement exécutées, mais les autres avaient réussi à leur échapper en se réfugiant dans les passages secrets du bâtiment. Les mercenaires s'étaient ensuite regroupés devant les portes d'Optalumal du Cénacle, avaient assemblé les pièces d'un canon désintégrant, avaient bombardé les vantaux massifs de rayons verts momifiants, mais l'alliage avait résisté. Au début du moins, car il commençait maintenant à se fendiller, à s'écailler, à se désagréger. Un mercenaire se dirigea en courant vers l'ovate, debout derrière le canon et dont le masque noir était parcouru d'éclats verts et scintillants. Les hommes, entassés dans le vestibule, réfrénaient tant bien que mal leur impatience. Le sang appelait le sang, et le massacre des Tutals n'avait fait qu'aiguillonner leurs pulsions meurtrières.
« Les Skaïtes sont partis, Ovat. Ils ont fait leur part de boulot. Nous n'avons plus besoin d'eux. Il ne reste d'eux que leur akaba, »
insista le mercenaire.
« Ils se sont comme désintégrés. On verra ça plus tard. » « Nous pouvons nous passer des Skaïtes pour récupérer le gosse. »«
Autre chose, Ovat, Corallion est à feu et à sang. Les Éphréniens se sont révoltés. Ils cernent par milliers le temple croïtien. »
L'officier du Pritiv jeta un regard courroucé sur la porte d'Optalumal.
« Ces satanés matrions vont regretter amèrement de nous avoir fait perdre notre temps. »
Le grésillement du rayon désintégrant lacérait le silence. Les matrions voyaient avec effroi s'agrandir la tache sombre sur le battant d'Optalumal gris. Elle n'avait pas pris place dans les travées surélevées. Elle s'était resserrée au centre du cénacle, autour du fauteuil de l'ancienne, autour de Murémi et de l'enfant de Niki. Elles avaient été pour la plupart surprises dans leurs tâches quotidiennes. Elles s'étaient vêtues à la hâte de leur robe ordinaire, d'une couleur bleue tirant sur le gris, et leurs cheveux dénoués, désordonnés, tombaient en cascades blanches, grises, blondes ou noires sur leurs épaules. L'inquiétude tirait leurs traits, accentuait leurs rides, creusait leurs cernes. Elles avaient entendu les cris d'épouvante, d'horreur ou d'agonie de leurs sœurs, et elles savaient, bien qu'elles fussent enfermées, qu'un affreux spectacle les attendait dehors, au cas de moins en moins probable où elles réussiraient à sortir vivantes de cette pièce. Elles se demandaient comment les mercenaires avaient été informés de la présence du fils d'Oniki dans le Touta. Comment ils étaient parvenus à passer l'obstacle de la reconnaissance cellulaire, en principe inviolable. Les faisceaux à haute densité prenaient automatiquement pour cible les intrus, dont les coordonnées cellulaires n'étaient pas entrées dans l'identificateur. Un système que seul le mystérieux amant d'Oniki avait jusqu'à présent tenu en échec. Il n'avait fallu qu'une poignée d'heures pour que les matrions s'attachent au fils de la proscrite. Comme si elles avaient depuis toujours guetté l'occasion d'exhumer le sentiment maternel, enfoui au plus profond de leur inconscient. Elles s'étaient disputées comme des gamines le privilège de l'accueillir dans leurs cellules. En désespoir de cause, elles en avaient appelé à la sagesse de Murémi, qui, des lueurs de malice dans les yeux, avait résolu leur problème en emmenant le garçon avec elles. Elles s'étaient toutes précipitées vers la cellule de l'ancienne lorsqu'avaient retenti les cris d'alarme des nettoyeuses de retour de car. La première de leurs pensées avait été de mettre l'enfant à l'abri. Peut-être également était-ce leur manière de se faire pardonner leur attitude intransigeante vis-à-vis de la proscrite, le traitement humiliant auquel elle avait été soumise. Oniki avait violé la règle 2 du Touta, et elles étaient chargées d'appliquer la loi tutalique, mais elles se rendaient compte, dans les heures troublées que connaissait Ephren, qu'elles devaient se dépouiller de leurs principes, de leur rigidité, de leur inflexibilité. L'invasion de la planète par les armées impériales et les Croïdiens, l'extermination des serpents de corail, l'effondrement d'une partie des grandes orgues, Tous ces événements avaient bouleversé les équilibres naturels, et même si les insurgés réussissaient dans leur entreprise, elles ignoraient qu'ils étaient passés à l'action, les choses ne seraient jamais plus comme avant. Il faudrait aux Éphréniens inventer une nouvelle forme de vie, créer de nouveaux équilibres. Elles prendraient une part active à la redéfinition des tâches, à la reconstruction, mais elles ignoraient encore quel rôle leur serait dévolu. La porte se lézardait à présent et des étincelles du terrible rayon vert traversaient l'étroite faille.
« Mon Dieu, nous sommes perdus !»
gémit Gomaï. Mouremi décocha un regard sévère à sa consœur.
« Tant qu'il nous restera un souffle de vie, nous garderons la tête haute, fière, et nous ne perdrons pas l'espoir. »
À cet instant, l'enfant émit un sifflement strident. Avant que l'ancienne n'ait eu le temps de réagir, il lui repoussa le bras, fendit les rangs compacts des matrions et se dirigea vers le fond du cénacle. Un homme s'y dressait, vêtu d'une veste et d'un pantalon de lin écru. Sa ressemblance avec le fils d'Oniki frappa immédiatement les matrions. Mêmes cheveux noirs et bouclés, mêmes yeux sombres et brillants, mêmes peau brune. Elles comprirent qu'elles se trouvaient devant l'homme qui était venu, quelques années plus tôt, dérober la virginité de leur jeune sœur. Abasourdies, elles ne songèrent même pas à se demander de quelle manière il s'y était pris pour s'introduire dans le cénacle assiégé. Il souleva l'enfant et le pressa longuement contre sa poitrine. De lui émanait une lumière subtile, une énergie surnaturelle. Les larmes diamantines qui roulaient sur ses joues donnaient au matrion l'envie de pleurer. Elles furent encore plus étonnées lorsqu'elles entendirent l'enfant prononcer son premier mot.
« Papa !»
Sa petite voix claire avait résonné comme un coup de tonnerre. Elles en oublièrent le grésillement insidieux du rayon vert sur l'optalumale.
« Les mercenaires sont là qui veulent prendre votre fils !»
déclara Mouremi, recouvrant l'usage de la parole et le sens des réalités. Chari reposa Taoufraïm sur le sol. « Je vous remercie de l'avoir protégé, » dit-il, « d'autant qu'il est le fruit d'amour défendu. »
« Lorsqu'on regarde votre fils, on se dit que cette entorse à la règle en valait la peine, » dit Mouremi. « Mais nous parlerons de tout cela plus tard. Dans quelques minutes, une vingtaine de mercenaires enragés vont faire irruption dans cette pièce. La porte est sur le point de céder. »
Chari jeta un coup d'œil sur la fissure grandissante de l'optalumale, teintée de vert par les gerbes d'étincelles. Taoufraïm et lui auraient pu rejoindre instantanément Oniki dans la pièce du temple kreutzien où elle était alitée. Mais il ne s'estimait pas le droit d'abandonner ses femmes à leur sort. Il était entré dans le naos des analindiques avant de se transférer sur Ephren. Elle l'avait expédié en reconnaissance mentale dans le temple kreutzien, dans les rues de Corallion et dans le cloître de Touta. Il s'était rendu compte que les Ephréniens révoltés en armes se dirigeait par milliers vers la colline de quartz noir où se dressait le temple, qu'un détachement de mercenaires de Prithiv accompagné de deux skaïtes cherchait à pénétrer dans le cloître où résidait Taoufraïm, et qu'un groupe de kreutziens s'était réfugié dans la chambre d'Oniki. Il avait aperçu les cicatrices et la teinte légèrement plus claire de la peau sur tout le flanc droit de la jeune femme, et il avait su à quelle terrible souffrance elle avait été soumise. Il avait également acquis la certitude que, bien qu'ils n'eussent pas été initiés à l'antra, il suffisait de tenir la main d'Oniki et de Taoufraïm pour qu'ils voyagent avec lui sur ses pensées. Ils formaient une entité indivisible, un Dewa indique. Ce que décidait l'un était spontanément admis par les deux autres. Ce qu'éprouvait l'un était ressenti par les deux autres. Il avait jugé que l'urgence lui commandait d'abord d'intervenir dans le cloître. Il avait envisagé d'en repartir tout de suite après avoir récupéré son fils, mais les visages rongés d'angoisse des matrions lui imposaient de modifier ses projets. Il espéra que le vicaire, enfermé dans la chambre de Niki avec le cardinal et les missionnaires, ne perdrait pas la raison au point de mettre sa menace à exécution. Il avait pris la précaution d'emporter l'onde mort que lui avait remis Jacques, et dont il avait prévu de se servir dans le cas où les hommes d'église l'empêcheraient d'enlever Oniki. Il le dégagea de la ceinture de son pantalon, en débloqua le cran de sûreté, le braqua sur la porte. « Ne restez pas au milieu de la pièce, » ordonna-t-il au Matrillon. « Couchez-vous dans les travées. » Elles se dispersèrent calmement, se dirigèrent vers les petits escaliers tournants qui donnaient sur les travées et s'allongèrent dans les espaces étroits compris entre les sièges et les montants de bois. Moremi voulut prendre la main de Taoufraïm, mais le garçon se déroba et s'agrippa de toutes ses forces à la jambe de son père.
« Votre fils ne veut pas me suivre, »
dit l'ancienne en lançant un regard anxieux en direction de la porte. Elle distinguait à présent des silhouettes gris et blancs par l'entaille qui s'élargissaient rapidement sur les battants d'Optalumal. « Allez-vous mettre à l'abri, » dit Chari. « Il restera avec moi. » L'ancienne entr'ouvrit la bouche pour protester, mais d'un geste péremptoire de la main, il lui fit signe de s'éloigner. Visiblement à regret, elle gravit les quelques marches de l'escalier le plus proche et s'allongea sur le plancher en lâchant une incompréhensible bordée de mots d'une voix de rogomme. Chari sentit tout à coup s'insinuer en lui une force inconnue, une énergie animale qui établissait une relation claire, directe, entre le cerveau et les muscles, qui accroissait ses forces, augmentait son acuité visuelle et diminuait son temps de réaction. L'espace de quelques secondes, il eut l'impression de quitter son corps d'homme, d'habiter un organisme allongé, sinueux, de se faufiler dans d'étroites et sombres galeries, de ramper sous l'œil empourpré d'une étoile naine et l'œil turquoise d'une géante bleue. Il voyait, il entendait, il ressentait comme un serpent de corail. Il baissa la tête et vit que Taoufraïm le dévisageait en souriant. C'était lui, son fils, qui, ayant vécu les trois premières années de sa vie dans les grandes orgues, lui transmettait la force et la vélocité des reptiles géants. Sa langue s'insinua entre ses lèvres ouvertes, se mit à vibrer, émit un sifflement strident. Après avoir traversé l'Optalumal, il ne fut pas très difficile au rayon momifiant, en partant de cette brèche, de découper la porte sur tout son pourtour. Les différents composants de la structure compacte de l'alliage se désolidarisaient comme les fils d'une trame. Les deux vantaux s'écroulèrent dans un fracas assourdissant et trois mercenaires s'engouffrèrent dans le cénacle. La lumière des appliques scintilla sur les rails greffés de leurs avant-bras, sur les disques qui saillaient de leurs manches retroussées. Ils s'attendaient à trouver quelques vieilles femmes et un enfant terrorisé, et ils n'avaient pas pris de précautions particulières pour s'introduire dans la salle de réunion du Touta. D'autant moins que l'attente avait exacerbé leur impatience. Ils prirent conscience de leur erreur lorsque des traits rectilignes lumineux se fichèrent dans leur gorge et dans leur poitrine. L'un d'eux eut le réflexe, avant de s'effondrer, de lever le bras en direction de l'homme qui se dressait au centre de la pièce et de déclencher le ressort interne de son lance-disque. Le disque manqua sa cible et percuta une boiserie avec une telle violence qu'il s'y enfonça entièrement.
« Reculez !»
hurla une voix déformée par la cavité du masque.
« Il y a un homme armé !»
Chari, ou l'instinct du serpent qui vivait à l'intérieur de lui, estima qu'il ne fallait pas leur laisser le temps de se réorganiser, de reprendre leurs esprits. Il se dirigea à grands pas vers l'ouverture béante. Il se mouvait à une vitesse étonnante, déroutante, presque effrayante pour sa raison humaine. Ce type de déplacement n'avait rien à voir avec le transfert par la pensée qui était un éblouissement immatériel et bref. Il proposait une autre vision de l'espace et du temps, une autre façon d'aborder la matière. Les mercenaires paraissaient effectuer leurs mouvements au ralenti. Ils se redressaient, l'air étonné, tendaient le bras, pressaient la détente greffée dans le creux de leur paume. Trois ou quatre fois plus rapide que ses adversaires, Chari esquivait les disques avec une facilité déconcertante, même lorsque plusieurs volaient simultanément dans sa direction. Son flair d'une sensibilité extraordinaire captait différentes odeurs, des odeurs de chair carbonisée, des odeurs de peur, de lointaines effluves de sang. Il atteignit la porte, coucha d'une rafale précise les deux ombres grises et blanches qui s'étaient imprudemment engagées dans l'ouverture, se glissa dans le vestibule. Il perçut les grincements de disques qui coulissaient sur leurs rails. Il appréhenda la situation en un éclair, la position de ses adversaires, la topologie des lieux. Deux hommes derrière le canon désintégrant, trois autres sur sa gauche, tapis contre le mur, la silhouette noire de Lovat sur sa droite, un groupe d'ombres grises un peu plus loin près de l'entrée du vestibule. Les ressorts des lance-disques se détendirent dans une succession de cliquetis. Il se rendit compte que les projectiles ne le prenaient pas tous pour cible. Certains d'entre eux se dirigeaient vers Taoufraïm, qui avait à son tour franchi l'ouverture béante pratiquée dans le blindage de la porte. Des coups sourds ébranlèrent le panneau de bois. Le vicaire avait posé le canon de son arme sur la temple d'Oniki. Il ne maîtrisait plus ses gestes, et la bouche métallique choquait régulièrement la tempe de la jeune femme.
« Rangez cette arme !» gronda le cardinal d'Esgouve. « Nous ne sommes plus en position de force, et nous ferions mieux de négocier notre reddition. Le sang a suffisamment coulé. »« Ouvrez cette porte et je vous pulvérise le crâne !»
aboya Grokaoman.
« Vous ne faites que retarder l'échéance !» argumenta le cardinal. « Apprêtez-vous à vous présenter en digne soldat de la foi devant le Kreutz !»«
Je me présenterai quand bon me semblera !»
hurla le vicaire les yeux hors de la tête.
« Le plus tard possible ! Cette petite putain me servira de bouclier humain ! Ils sont venus pour la délivrer ! Ils n'oseront pas tirer sur elle !»«
Votre cœur est aussi noir et puant que votre trou du cul, Grokaman !»«
Mon trou du cul est vierge, éminence ! Et votre langage marque une certaine tendance à la vulgarité !»
La porte taillée dans le bois de rosalier, un bois extrêmement dur, résistait pour l'instant aux coups de bélier, mais les charnières, vissées dans le mur, commençaient à saillir hors de leur gaine de mousse. Grokaoman saisit Oniki par le poignet et, d'un geste brutal, la tira hors du lit. C'était la première fois qu'elle se levait depuis sa terrible chute dans le bouclier de corail, et ses jambes flageolantes la soutenaient avec peine. Le vicaire la laissa se recouvrir du drap de soie, puis il se plaça derrière elle, passa un bras autour de sa gorge, et de sa main libre, lui braqua l'onde mort sur la joue.
« Je vous ordonne de lâcher cette femme !»
gronda le cardinal.
« Et comment me contraindriez-vous à la lâcher, éminence ?»
rétorqua Grokaoman.
« Par la force !
Au nom du Kreutz !»
Le vicaire lâcha un petit rire sardonique.
« Laissons le Kreutz reposer en paix de grâce ! Cela fait plus de 5000 ans qu'il est mort !»
Le contact avec l'homme d'église couvrait de frissons la peau d'Oniki. Elle ne tremblait pas de peur, mais de dégoût. Elle avait l'impression que la noirceur de son âme se déversait sur elle, la salissait, la vilissait. La porte s'arracha de ses gonds et fut projetée sur le sol. Une dizaine d'Éphréniens, trompés par le fléchissement soudain de l'obstacle, emportés par leur élan, se renversèrent comme des quilles à l'intérieur de la chambre. L'épaisse barre de fer qui leur servait de bélier leur échappa des mains, roula sur le plancher et heurta violemment un pied du lit. Empêtrés les uns dans les autres, ils se relevèrent aussi rapidement que le leur permettait l'étroitesse de la pièce. Plusieurs d'entre eux, des pulonniers ou des pêcheurs probablement, étaient armés de fusils à harpons. Les autres brandissaient des haches, de longs couteaux de cuisine ou des ustensiles de jardinage. Leurs gestes et leurs traits se figèrent lorsqu'ils découvrirent l'étrange couple formé par le vicaire et l'ancienne proscrite vêtue en tout et pour tout d'un drap de soie.
« L'objet métallique que je tiens dans la main est un nom de mort !»
rugit Grokaoman.
« Un seul geste menaçant de votre part, et je pulvérise le crâne de cette chère Onikike !»
Les Éphréniens se consultèrent du regard.
« Remettez-nous, Oniki, et nous vous garantissons la vie sauve !»
affirma l'un d'eux, un homme corpulent sanglé dans la combinaison traditionnelle des capitaines du Pulon. Un sourire affreux s'afficha sur la face livide de Grokaoman.
« Ne me prenez pas pour un imbécile, capitaine. Si j'accepte votre proposition, vous me tuerez dès que j'aurai franchi le seuil de cette porte. »«
Vous n'avez plus le choix, vicaire. Vos skaïtes ne sont plus là pour vous protéger. Avez-vous quelque chose à voir avec leur disparition ?»
demanda le cardinal.
« Elle a bien arrangé nos affaires, mais nous n'y sommes pour rien. »
répondit le capitaine.
« Une pure coïncidence, éminence. Nous avions prévu de les arroser de mousse liquide, et nous avons été surpris de ne pas en croiser un seul dans les couloirs du temple. Nous avons présumé qu'ils avaient disparu lorsque nous avons découvert leurs akabas vides. Pourquoi avez-vous lancé votre offensive plus tôt que prévu ? J'avais des soupçons sur un de mes hommes, Cal Pralette. Nous l'avons suivi, nous l'avons vu sortir du temple. » Et nous avons décidé d'avancer l'heure des opérations. Je suis Saül Arden, et les mercenaires que vous avez expédiés à mon adresse ont été reçus avec tous les honneurs dus à leur rang. Leurs corps en croix ornent quelques portails des entrepôts portuaires. Maintenant, vicaire, lâchez cette femme.
Saül Arnen épaula son fusil à harpon et visa la tête de Grockhaumann. Onicky sentit nettement la crispation du bras du vicaire autour de son cou.
« Je vous donne 5 secondes pour vous écarter, »
glapit-il.
« Au-delà, je presserai la détente de mon arme, et ce n'est pas une promesse en l'air. »
Saül Arnen baissa son fusil et, d'un bref mouvement de tête, ordonna aux hommes de s'exécuter. À contre-cœur, les yeux brillants de rage, les mâchoires et les poings crispés, ils se dirigèrent à pas lents vers l'embrasure de la porte. Grockhaumann esquissa un sourire satisfait, et d'une pression de genoux dans les reins, obligea Onicky à avancer.
« Dites à vos hommes de dégager les couloirs et les escaliers jusqu'au sous-sol. »
« Qui me garantit que vous ne tuerez pas cette femme lorsque vous aurez atteint votre but, vicaire ?»
demanda Saül Arnen avant de sortir.
« Tu devras te contenter de ma parole, Baritol. Eh bien, éminence, j'ai dégagé la voie. Est-ce que vous m'accompagnez ?»«
Bien sûr, » répondit le prélat.
Et de manière totalement inattendue, il se précipita comme un oursigre sauvage sur son secrétaire. Il lui saisit d'abord le bras armé et le leva en force. Un rayon étincelant jaillit de la gueule du canon et s'écrasa sur le plafond, où il abandonna un large trou au bord noir et fumant. L'autre bras de Grockhaumann, surpris, se desserra. Onicky mit instantanément ce relâchement à profit pour s'accroupir et échapper à l'étreinte de son ravisseur. Elle se réfugia à 4 pattes sous le lit, où elle rajusta de son mieux le drap sur son corps.
« Je t'accompagnerai en enfer, Grockhaumann !»
gronda le cardinal. Les deux hommes entrelacés retombèrent sur le lit. Les ressorts de l'antique sommier grincèrent de concert. Le vicaire réussit à glisser le canon de son arme sous le menton de son adversaire, à presser la détente. Un éclat fulgurant de lumière illumina la face émaciée du prélat. Son occiput vola en éclats et sa cervelle, jaillissant par l'ouverture béante, s'écrasa contre le mur du fond. Le vicaire le repoussa rageusement de l'épaule et il s'affaissa sur le parquet. Grockhaumann chercha son otage des yeux, comprit au regard convergent des missionnaires pétrifiés qu'elle s'était réfugiée sous le lit. Au moment où il se redressait, un harpon, décoché depuis l'embrasure de la porte, lui transperça le cou. Il lâcha son nom de mort, agrippa la hampe métallique de ses deux mains, tenta désespérément de l'extirper de sa gorge. Sa respiration devint sifflante. Un voile trouble lui glissa sur les yeux. Il esquissa quelques pas chancelants avant de s'affaler sur la chaise. Dans le choc, le harpon se brisa et lui déchiqueta le cou. Saül Arnen aida Onicky à se relever. Les Éphréniens se pressaient en grand nombre dans la chambre et des clameurs de joie montaient du couloir et des escaliers. Seuls les missionnaires, pétrifiés, collés contre le mur, ne participaient pas à la liesse générale.
« Vous êtes libre, dame Onicky, »
déclara Saül Arnen. Son sourire se figea lorsqu'il remarqua l'air tragique de la jeune femme. D'un geste impatient du bras, il intima aux Éphréniens l'ordre de se taire.
« Je les ai entendus dire que les mercenaires de Prithiv avaient attaqué le cloître, »
murmura-t-elle.
« Ils ne peuvent pas pénétrer dans l'enceinte du Touta. Le système d'identification cellulaire... »
Des Skaïtes effaceurs étaient avec eux, chargés de contraindre les permades à neutraliser l'identificateur.
« J'espère qu'ils se sont volatilisés à temps, »
soupira Saül Arnen. Il se retourna vers les autres, brandit son fusil à harpon et hurla.
« Au Touta ! Au Touta ! »
s'exclamèrent des centaines de voix. Taoufraïm esquiva les disques sifflants des mercenaires avec autant d'adresse que de grâce. De temps à autre, Chari lançait un coup d'œil en direction de son fils pour s'assurer qu'il n'était pas touché. Un réflexe l'avait d'abord entraîné à le repousser de l'autre côté de la porte et le tenir éloigné du vestibule. Mais il s'était vite rendu compte que Taoufraïm maîtrisait bien mieux que lui l'énergie reptilienne, la vitesse d'exécution, l'acuité visuelle, la distorsion de l'espace-temps. Il avait également saisi tout le parti qu'il y avait à tirer de la diversion offerte par cette cible mouvante, insaisissable. Elle divisait par 2 le nombre de projectiles qu'il devait lui-même esquiver et lui permettait de se concentrer sur son propre tir. Il avait sauté par-dessus le canon désintégrant et, au vol, avait ouvert le feu sur les 2 mercenaires accroupis près du socle. Puis il s'était reçu en souplesse sur le sol, s'était retourné, avait évité 3 disques d'un pas sur le côté et lâché une rafale en direction de l'Ovat.
Ce dernier s'était affaissé silencieusement, les mains crispées sur son ventre. Les autres n'avaient pas compris qu'il ne servait à rien de gaspiller son temps et son énergie à viser Taoufraïm. Agacés par la facilité avec laquelle cet enfant se louait de leur tir, ils ne se rendaient pas compte qu'ils n'étaient pas armés, qu'ils n'avaient donc pas la possibilité de riposter. Lorsqu'ils décidèrent enfin de concentrer leurs efforts sur Shari, tout aussi insaisissable que l'enfant mais équipé d'un nom de mort, ils n'étaient plus que quatre. Quatre qui se reculèrent vers la porte de sortie sans cesser de décocher leur disque. Ils savaient maintenant qu'ils n'avaient pas affaire à des adversaires ordinaires, mais à d'étranges créatures mi-animales, mi-légendaires, à des êtres invincibles en tout cas, et bien qu'ils fussent éduqués depuis toujours dans le principe honorable de la victoire ou la mort, ils choisirent de battre en retraite. Ils avaient certes échoué, ils ne ramenaient pas l'enfant de la tutelle proscrite. Ils connaissaient la consigne en cas d'échec, l'honorable suicide déontique. Mais l'Orovat n'était plus là pour les assister dans l'exécution de la consigne, et la discipline s'était considérablement relâchée depuis la proclamation de Lang Empire et l'accession du Prithiv au pouvoir. D'abord simple regroupement de chevaliers Absurat bannis, le Prithiv s'était développé dans l'ombre des gouvernements planétaires, qui avaient besoin d'exécutants discrets pour accomplir les basses besognes. Il était d'essence nocturne, comme ces rapaces luisants des plaines prithiviques, comme les assassins, les voleurs, les comploteurs, les amants. Et ses dirigeants avaient renié sa véritable nature en l'exposant à la lumière du jour. L'alliance avec les Hang de Syracusa et les Skaïtes d'Hipponéros lui avait certes permis de terrasser son ennemi ancestral, l'ordre Absurat, mais ce triomphe avait paradoxalement amorcé son déclin. Les liens de la vigilance et du secret s'étaient détendus, et le Prithiv n'était plus désormais qu'une armée ordinaire. Il s'était consumé à la brillance syracusaine, comme les insectes se brûlent aux rayons des bulles lumière. Il avait poussé l'ordre, l'ascendant Haï, dans l'ombre, et par un juste retour des choses, la lumière le rejetait dans le néant. C'étaient les raisons pour lesquelles les quatre mercenaires survivants choisissaient de s'enfuir plutôt que d'affronter ces deux étranges adversaires, dont un enfant, dans un combat à mort. Ils parcoururent le couloir au pas de course, franchirent les galeries du jardin intérieur où paraissait une tenace odeur de sang, enjambèrent les cadavres des permades de la guérite de surveillance et sortirent de l'enceinte du cloître par la porte dérobée. Bien que plus véloce, Shari renonça à les poursuivre. Il jeta un regard attristé sur les corps ensanglantés des tutales jonchant l'herbe, les allées et les massifs du jardin. La lumière bleue de Xatimou se teintait du pourpre naissant de Taouxir. Il glissa l'onde mort dans la ceinture de son pantalon, prit Taoufraïm par la main et retourna dans le cénacle, où les matrions s'étaient de nouveau rassemblés autour du fauteuil de la doyenne. « Le danger est écarté, » déclara-t-il. « Vous pouvez sortir. » « Combien de nos sœurs ?» Les mots se brisèrent dans la gorge de Mouremi qui éclata en sanglots. Taoufraïm retira sa main de celle de son père, s'avança vers elle et lui enlaça les jambes. L'ancienne se pencha sur lui et lui caressa tendrement les cheveux. À cet instant, des clameurs s'échouèrent dans le silence du cénacle. Shari, Taoufraïm et les matrions traversèrent en hâte le jardin. Les larmes de Mouremi redoublèrent lorsqu'elle découvrit l'odieux spectacle de ses filles figées dans la mort, et s'engagèrent dans la rue qui descendait vers le port de Corallion, vers le pont qui donnait accès à l'ascenseur du pylône principal. Ils aperçurent, en contrebas, la colonne grondante des Éphréniens qui montait vers le Touta. Un groupe d'hommes armés de fusils à harpons s'était lancé à la poursuite des quatre mercenaires survivants qui avaient coupé à travers les espaces arborés et détalaient en direction de l'océan. Sans s'en rendre compte, les fuyards s'étaient fourvoyés dans une impasse. Ils seraient bientôt coincés entre l'eau noire du Guigen et les Éphréniens, et ils n'auraient pas d'autre choix que d'accepter la dure loi de la mort déontique. Shari reconnut immédiatement la silhouette enveloppée d'un tissu blanc qui marchait en tête de la multitude. Il souleva Taoufraïm, l'installa à califourchon sur ses épaules et à grandes enjambées. L'énergie animale des serpents de corail l'avait déserté, mais il avait tout de même l'impression de voler, et s'avança vers Oniki. Les matrions restèrent en arrière, et, comme si elles comprenaient qu'elles devaient laisser l'ancienne proscrite s'en aller seule vers son prince, la foule des insurgés s'immobilisa également. Shari et Oniki ralentirent imperceptiblement l'allure au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient l'un de l'autre. Ils ne voulaient pas gâcher par un excès de brusquerie ce moment dont ils avaient rêvé depuis plus de 3 ans. Seuls les grondements lointains des vagues et les notes graves et prolongées des tuyaux des orgues résonnaient dans le silence profond, solennel, qui régnait sur Corallion et ses environs. Les rayons des deux étoiles, la naine rouge et la géante bleue, s'associaient pour ourler les reliefs d'une somptueuse frange mauve. Parvenus à 1 mètre l'un de l'autre, ils s'arrêtèrent et se contemplèrent sans dire un mot. L'émotion les aurait de toute façon empêchés de parler. Ils la trouvaient plus belle encore, plus désirable malgré les fines cicatrices qui lui barraient le côté droit du visage. Ils la revoyaient émerger du nuage de vapeur, sortir de la douche de sa cellule, un drap d'éponge enroulé autour de la poitrine. Elle portait toujours la beauté de son âme sur son visage, même si cette beauté s'imprégnait à présent de gravité. Et le chant d'amour résonnait en lui avec une puissance inouïe. Elle se souvenait de lui, maigre et triste, les joues mangées par une barbe de plusieurs jours, vêtue d'une tunique déchirée, et elle avait plus que jamais envie de lui appartenir, de se fondre tout entière en lui. « Mon prince, » murmura-t-elle d'une voix musicale, « Shari. » Shari reposa Taoufraïm au sol, la saisit par les épaules et l'attira doucement à lui. Les Éphréniens enterrèrent leurs morts, puis organisèrent une grande fête pour célébrer à la fois leur liberté reconquise et les épousailles d'Oniki et de Shari. Ils pavoisèrent la ville, décorèrent des chariots et promenèrent en une procession solennelle l'ancienne proscrite, le Mahdi et leur fils. Oniki portait une tenue traditionnelle éphrénienne, une robe blanche brodée de perles océanes qui rehaussait sa beauté. Shari avait passé la veste claire de citoyen honorifique de Corallion par-dessus sa tunique. Quant à Taoufraïm, on l'avait habillé d'un costume de laine et de chaussures d'écaille, dans lesquelles il n'était visiblement pas très à l'aise. Tout au long du parcours, les Éphréniens en liesse lançaient des pétales de rose sur leurs chariots, et des parfums fleuris se diffusaient dans les senteurs salines colportées par les rafales de vent. Les matrions avaient décidé de ne pas observer de période de deuil. Elles avaient remis le corps des Tutals assassinés à leurs familles respectives et avaient aussitôt réorganisé l'écart de nettoyage. Les lichens célestes, qui avaient déjà engorgé les tuyaux mineurs, s'accumulaient rapidement dans les tuyaux majeurs et elles devaient à tout prix éviter qu'une nuit noire, froide, ensevelisse Corallion. Elles avaient donc mobilisé l'ensemble des nettoyeuses du ciel survivantes et les avait toutes expédiées dans les grandes orgues. Parfois, lorsque s'apaisaient les clameurs, Oniki décelait le chant lointain de ses sœurs, et dans son corps se réveillaient les sensations enivrantes de l'escalade dans le corail. Elle ne revit pas ses parents. On lui apprit qu'ils étaient morts de chagrin quelques semaines après son départ pour Xalion. Quant à ses frères et sœurs, excédés de lire des reproches dans les regards des passants, ils avaient préféré s'installer dans des villes mineures du continent éphrénien. Le Pulon mit son plus bel immeuble, un édifice qui dominait le port, à la disposition des nouveaux époux. On le nettoya de fond en comble, on transforma les bureaux du haut en chambres et ceux du bas en salle de banquet. On l'agrémenta de fleurs, d'étoiles de mer, de coquillages. Le Touta ne fut représenté au banquet que par la seule Moremi. Une présence surtout motivée par des raisons politiques et pratiques. Les anciens édiles avaient pactisé avec les Creusiens, avaient perdu tout crédit, toute autorité sur la population, et Efren restait pour l'instant dépourvu de gouvernement. Vêtu de sa robe officielle, Moremi s'installa d'autorité au milieu des patrions du Pulon, et au cours du repas, les pria d'activer la consolidation des piliers endommagés par les serpentaires géants, et de réfléchir à sa proposition d'un nouveau gouvernement composé pour tiers de patrions, pour tiers de matrions et pour tiers d'édiles élus par la population.
L'équilibre des frênes dépend pour beaucoup de nos deux corporations, argumenta-t-elle.
L'épisode des Serpentaires nous montre que nous devons avoir un regard prioritaire sur les décisions qui concernent le bouclier de corail et les pylônes de soutènement.
Ne croyez-vous pas que notre travail pâtisse d'une trop grande implication politique ? Objecta un Patrion.
Il a pour l'instant surtout souffert d'un manque d'implication politique, répliqua l'ancienne. Et le prix qu'en a payé le Touta est trop exorbitant pour que nous laissions les choses en l'état.
Elle quitta la grande table avant la fin du banquet. Elle alla saluer Oniki, Chari, embrassa Taoufraïm et se retira discrètement, courbée par le chagrin et le poids des ans. Oniki et Chari s'aimèrent une grande partie de la nuit. Il fit preuve d'une grande douceur et elle ne se ressentit pas de ses blessures. Taoufraïm dormait à poing fermé dans une chambre adjacente.
Nous partirons à l'aube de Xatimou.
La tête d'Oniki posée sur son épaule se releva de quelques centimètres.
Comment ?
Tu voyageras sur mes pensées. L'humanité a besoin de nous trois. Après, si tu le veux, nous reviendrons nous installer sur l'île de Bzalion.
J'irai où tu voudras.
Ma volonté est guidée par tes désirs. Tu as besoin du corail et j'ai besoin de toi. Elle se redressa et ses lèvres capturèrent avec agilité les lèvres de son prince.